Tu as besoin d'un joli moment de détente ?
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches ? Tu hésites ? Tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes.
Sur Radio Barthès 107FM. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle émission du chaudron des découvertes. Alors voilà, je vais tout vous dire. Je suis allée mettre mon nez au-dessus du chaudron, et là, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais il y avait des senteurs de plantes sauvages, des parfums enivrants, des vapeurs un peu excitantes. Bref, j'ai humé des fragrances de turbulence, des petites odeurs de mal appris et de pas très politiquement correctes. Bon, allez. Soyez honnête, vous vous êtes déjà affalé devant un écran à regarder des trucs pas très évolués, ou bien vous avez lu avec une certaine avidité un petit roman de rien du tout, pas forcément d'un haut niveau intellectuel, non ? Eh bien voilà, j'ai eu un déclic devant ce chaudron un peu maléfique et j'ai eu envie de vous parler de mes lectures inavouables. Enfin, pas tant que ça, puisque vous allez les découvrir. Mais quand même, il me faut un peu d'adrénaline et que le récit m'embarque. Je vais donc vous parler de romans qui m'ont emmené sur le chemin de la détente, de la loufoquerie, de la moralité douteuse, et je n'ai même pas honte, parce que j'ai souri, ricané parfois, bien ri par moments, et franchement, ça m'a fait du bien. Je vais commencer par vous parler de Jackie Schwartzman. Jackie Schwartzman est né à Besançon en 1972 et après un peu de fac de philo, il a enchaîné des tas de petits boulots puis s'est mis à écrire des romans plus ou moins farfelus, décapants, très souvent de mauvais goût. Il en a écrit pas mal, inspiré de ses expériences professionnelles. Il dit d'ailleurs lors d'une interview sur France Culture que le meilleur endroit pour écrire un roman, c'est la machine à café le lundi matin. Personnellement, j'en ai lu 4. Mais j'en retiens 2. Le premier, Demain c'est loin, aux éditions du Seuil 2017, et le deuxième, Casso, cadre noir des éditions du Seuil 2021. Demain c'est loin démarre sur les chapeaux de roue. C'est un road trip déjanté qui organise une rencontre improbable entre un homme, François, un type pas très au clair sur son projet professionnel, des finances qui battent sérieusement de l'aile, et une banquière très BCBG. D'un rendez-vous à la banque où la banquière reste inflexible sur les possibilités de crédit que lui réclame François, jusqu'à la fin que, bien entendu, je ne dévoilerai pas, il va se passer une foule d'événements, de rebondissements auxquels les deux personnages vont être confrontés. C'est du non-stop. C'est assez jouissif. Le discours est rude et sans précaution oratoire. Extrait. Quand j'ai besoin de décompresser, je ne picole pas, je ne fume pas de joint, je vais chez Fouad, c'est mon coiffeur, cours Charlemagne. Il est tunisien, il est drôle. Il a toujours une connerie à raconter, soit des trucs qu'il invente, soit des trucs qui sont arrivés à des potes à lui. Fouad a une façon de parler qui vous ferait marrer un gendarme. Il est aussi un peu philosophe, mais sans grande théorie, ça non. Il a juste une capacité à réfléchir le trottoir. Quand je suis entrée dans son salon, il était en train de coiffer un Français d'une cinquantaine d'années, le genre de type à apporter des duffel coats l'hiver, le genre de type qui se croit intéressant, qui s'écoute parler et qui prend de très haut les tunards. Je ne vous lis pas la suite, c'est juste pour vous montrer qu'on est loin du langage empoulé, c'est sûr. Mais ce n'est pas Jackie Schwartzman qui parle, ce sont ses personnages. Et puis j'aime bien le « il a juste une capacité à réfléchir le trottoir ». Derrière des situations cocasses ou improbables, et le discours à l'emporte-pièce, pour ne pas dire un peu trash, on entend aussi pas mal de choses sur une société que Jackie Schwartzman décortique à sa manière. Tout y passe. La société, la religion, le profit, les relations hommes-femmes, L'auteur y va même très fort parfois, mais comme tout le monde en prend pour son grade, la charge est équitable. Comme pour les femmes qui ne sont pas tellement encensées, mais attention, il peut se passer des choses. Et de toute façon, les hommes en prennent aussi plein la figure. Donc en gros, match nul. Autre extrait. La seule chose qui pouvait nous sauver, c'était un élément extérieur qui m'est divinement apparu sous la forme d'une bagnole de flic arrêtée à un feu rouge sur les quais au niveau du parc de la Tête d'Or. Je suis passée à côté d'eux, j'ai grillé le feu rouge à 140 à l'heure dans l'espoir qu'ils m'arrêtent. Mais rien du tout, incroyable. La voiture est restée sagement immobilisée au feu rouge. Je n'en croyais pas mon rétro. Dans le 6e arrondissement, quand on conduit une Audi, on peut faire des trucs comme ça, griller des feux, s'en foutre de tout, personne ne nous arrête. Comme vous le voyez, le récit est assez cinématographique. Dialogue enlevé, mauvaise foi, retournement de situation, on embarque avec les personnages dans leur voyage un peu fou et on attend la prochaine péripétie. Il y a de l'humour, noir, des propos forts de café, des entourloupes, et c'est immoral mais drôle, car au fond, le narrateur est un type lambda qui va vivre des événements assez délirants. L'auteur traque aussi les lieux communs et les a priori. Ainsi, la banquière. Vous avez volé combien de voitures dans votre vie? Trop pour tenir le compte, sans doute. Je ne veux même pas vous écouter, vous êtes une fasciste. Oh, allez quoi, faites pas votre mauvaise tête. Techniquement, je ne l'ai pas volé. Il y aurait dû avoir les clés, non? J'ai un peu de mal à vous suivre, votre raisonnement. Je veux dire, j'ai juste pallié une anomalie, l'absence de clé. Quand on se lance dans ce genre de roman, il faut accepter l'idée qu'il y aura de la vulgarité dans les dialogues. Mais encore une fois, c'est la langue des protagonistes et il ne faut pas se laisser piéger par des propos qui pourraient offenser, voire être pris comme racistes. C'est une façon détournée de dénoncer certaines choses, et donc, il faut entrer de plein pied dans le second degré. Le second roman de Schwartzmann, c'est Casso. Casso écrit K-A-2-S-O. Et pourquoi? Parce que le narrateur, qui s'appelle Jackie Tudyk, est le sosie de Mathieu Kassovitz. Une belle opportunité pour ce Jackie qui va en faire son gagne-pain. Comme le précédent roman, ça démarre assez fort, genre « Maman n'est pas morte, ce serait mieux pour tout le monde à commencer par elle ». En effet, Jackie, dit Casso, va donc revenir dans sa ville natale, Besançon, également la ville natale de Jackie Schwartzmann, pour s'occuper de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Rencontre à l'EHPAD où la mère de Jackie le prend pour un médecin. Morceau choisi. Mais « quel enculé, celui-là !» s'exclama maman. « Pardon ?»« Nagui, c'est un bel enculé, vous pouvez me croire, docteur !» Dans le cadre de l'échange de l'enveloppe corporelle, j'ai la nette impression que maman se fait squatter par Joy Star. C'est évidemment la première fois que le mot « enculé » franchit le seuil de ses dents. Je dois avouer que le décalage est drôle. Plus loin dans le texte, toujours sur Nagui. C'est mon fils. Ah, je déteste quand il fait ça. Il fait quoi? La candidate, là, la jeune, elle a expliqué qu'elle était ingénieure. Son boulot, c'est de chercher du pétrole. Nagui lui fait la morale. Et faut arrêter avec le pétrole, faut être écolo. Il l'humilie. Et le public applaudit, tas de veaux. C'est un peu vrai, non? Alors, je ne vous donne pas la réponse de la mère de Jackie. Vous verrez. Bien entendu, comme tout le monde le sait, la maladie d'Alzheimer altère profondément les neurones et entre autres certaines zones du cerveau chargées de discipliner notre mode de communication et notre savoir-vivre. L'auteur profite d'une réalité médicale pour égratigner sérieusement. Et d'ailleurs, le narrateur est assez déboussolé de cette rencontre avec sa mère, lui qui par ailleurs n'a aucun scrupule, notamment à jouer de l'arnaque, puisque son métier, c'est faire croire qu'il est vraiment Mathieu Kassovitz et en tirer de profits très juteux. On est toujours un peu dans une sorte de douche écossaise qui nous balane entre des bons sentiments et des propos cyniques. Comme dans le roman précédent, le narrateur est l'un des protagonistes. C'est à chaque fois un homme dont la vie n'est pas forcément tranquille ni exemplaire. Et évidemment, va démarrer un enchevêtrement de situations où Casso va se lancer dans une nouvelle arnaque avec de multiples rebondissements. C'est assez immoral et ça démarre très tôt pour Jackie Toudic, qui se rappelle son enfance. À propos d'un petit caillou ramassé lors d'une promenade avec son père, lorsque Jackie a environ 5 ans. Le père. « Bon, Jackie, tu veux en faire quoi ?»« Je vais arnaquer la petite souris. » No comment. Il y a aussi quelques envolées sur l'état de notre société par l'intermédiaire du narrateur. Exemple. Certains ont un travail, d'autres un labeur. Ça vous fait pas la même vie. Notre monde est dirigé par des ingénieurs et entretenu par des employés de bureau et des manutentionnaires, avec rien au milieu. Trop de types, pas assez de bonnes places. Égalité des chances, tu mens. Et puis il y a des observations assez drôles, inspirées du réel. Exemple encore. Deux pâtisseries se font face. L'une, dont la spécialité est le chou à la crème avec des parfums qu'on n'imagine même pas, l'autre, la meringue, avec un délire similaire sur les variantes. Et il y a des gens sur Terre, à Paris en fait, qui sont clients et qui estiment que, attention, une meringue, c'est pas juste une meringue, c'est un art, une religion, mieux encore, une cosmogonie. S'ensuit une diatribe contre les faux écolos dont je vous laisse le plaisir de la lecture, et qui se termine par « C'est tellement important qu'on arrête de consommer à outrance et que je puisse manger mes petits choux à la crème parfumés au pissenlit. » L'auteur semble avoir pris un plaisir fou à construire le discours et les dialogues de ses personnages. Le narrateur va faire des rencontres toujours étonnantes, comme celle de Zoé, avocate, rencontre qui, bien entendu, comme avec la banquière du livre précédent, va avoir des conséquences que je ne vous raconterai pas. La chose la plus intéressante avec ces deux romans est qu'on ne s'ennuie jamais, pas de temps mort et des surprises en permanence.
Vous écoutez
Le Chaudron des Découvertes
sur Radio Bartas, 107 FM.
Alors voici maintenant un autre auteur que j'ai découvert qui s'appelle Ante Tomić. Ante Tomić est né en Yougoslavie en 1970, diplômé de philosophie et de sociologie. Il est aujourd'hui journaliste, scénariste et écrivain et de nationalité croate. J'ai lu deux de ses livres. Le premier, c'est « Qu'est-ce qu'un homme sans moustache ?» qui a été écrit en 2000 et traduit en 2023. Et « Miracle à la combe aux aspics » écrit en 2009 et traduit en 2021. Je vais commencer par « Qu'est-ce qu'un homme sans moustache ?» et il m'a semblé qu'il vaut mieux commencer par ce roman et continuer avec « Miracle à la combe aux aspics » qui, pour moi, monte en puissance. Donc « Qu'est-ce qu'un homme sans moustache ?» a été écrit après la guerre qui a ravagé ce pays de 91 à 95, comme tous ceux de l'ex-Yougoslavie. Pas de road trip ici, mais des tas de scénettes qui s'entrecroisent dans un village appelé Smiljevo, de 2000 habitants, Florac quoi. Des personnages assez hauts en couleur se rencontrent, se parlent, ont des habitudes, des croyances. Il y a des quiproquos, des douleurs cachées, des envies, du désir, des jalousies. Bref, tout ce qui constitue une communauté d'hommes et de femmes. L'écriture est assez tranquille, contrairement aux personnages qui ne le sont pas forcément. Ante Tomić se moque de chacun, de l'État, de l'Église, de l'armée, du machisme. C'est moins incisif que Jackie Schwartzman, mais ça parle quand même d'une société qui présente quelques travers. Exemple. Cela se passait le samedi où l'on coulait l'ultime dalle de béton dans la maison de Marinko. Cette ultime étant purement spéculative, car à Smiljevo, on ne sait pas ce qui peut se passer par la tête d'un homme, même beaucoup moins aisé que Marinko, quand il décide de démonter le toit de sa maison pour construire un étage supplémentaire, Ainsi a-t-on vu cette dernière décennie plusieurs édifices gigantesques et absurdes émerger à Smiljevo, érigés par des propriétaires ne sachant que faire de leur argent, parce que l'immobilier constitue un investissement judicieux, même si la dite maison comporte 14 pièces et un garage assez grand pour une entreprise de transport de taille moyenne. L'humour est présent dans les situations comme dans les dialogues. Exemple. Je dirais avec une quasi-certitude que nous sommes à la recherche d'un taliban adopté par un combattant tchétchène marié à une séparatiste basque. De plus, dans son récit, Ante Tomić glisse régulièrement des communiqués de presse plus ou moins loufoques. Ainsi, entre autres. Une audience a eu lieu entre PL et RC. PL accuse RC de lui avoir vendu sa maison sans l'avoir prévenu que le fantôme de son frère, ZC, qui s'est pendu dans le grenier, s'y manifestait épisodiquement. Lors de son témoignage, PL a déclaré que le fantôme n'éteint jamais la lumière de la salle de bain, qu'il ne lève jamais la lunette des toilettes et qu'il fume au lit, signalant qu'il est particulièrement insupportable jusqu'à 3 heures du matin, il écoute des variétés. On se situe à la fois dans un humour absurde et dans un récit où on suit le rythme de la vie quotidienne, somme toute assez banale. Il n'y a pas vraiment de film conducteur ou de scénario, mais les choses évoluent, changent pour quelques-uns. Certains personnages ont des accidents, mais ce n'est pas très dramatique. Une jeune veuve poursuit assidûment et amoureusement un prêtre, un autre se veut poète. Ils se chamaillent pour des broutilles à propos d'idées fixes ou d'a priori. Il y a de l'intolérance, comme lors de la visite d'un ministre. Retrouvailles avec Marinko, copain d'enfance. Le ministre. « Tu as l'air en pleine forme, dit le ministre de la Défense jovialement. En très grande forme. Si j'étais de la jaquette, je n'hésiterais pas une seconde. « Allez, allez, dit Marinko, qu'est-ce que tu racontes ?»« Ce que je raconte, dit le ministre en souriant. « Eh, Marinko, tu as de la chance, mon petit. Si tu savais combien il y en a au sommet de l'État. »« De quoi ?»« Des tapettes, dit Cassolette. Il y en a tellement, Dieu me préserve. Tu ne sais pas comment t'en défaire. Ça se tripote de tous les côtés. » On le voit, provocation, ironie, second degré. La dictature, la chute de Tito et la guerre sont à peine évoqués, sinon pour expliquer pourquoi Marinko est sorti du pays illégalement, puis revenu avec des ressources financières dont les villageois soupçonnent une origine douteuse. Il est d'ailleurs appelé l'immigré. L'État, l'armée, l'Église, tout le monde en prend. Et l'auteur s'amuse. Petit dialogue improbable entre un villageois et le curé. Quelle est la position officielle de l'Église en ce qui concerne les nichons siliconés ? Jésus-Marie-Joseph, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Je pensais à ça l'autre jour. Les nichons siliconés sont inconciliables avec les saintes écritures. Ah bon ? S'exclama le curé. Et pourquoi ça ? Tu sais bien ce qui est écrit dans la Bible. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu deviendras poussière. Et ? Les nichons siliconés ne peuvent pas se transformer en poussière. Ils sont imputrescibles. Voilà, les personnages ne sont pas forcément très malins, assez souvent machos, mais on sourit car au fond, ils ne sont pas cyniques ni méchants. L'auteur semble nous dire, « Voyez, ils ne sont pas très évolués, mais je les aime bien quand même. » En fait, dans ce roman, on est baladé entre le récit d'une petite vie quotidienne de tous les jours, des dialogues même un peu gentillés, et puis des séquences décalées et totalement hors sol. Le deuxième roman d'Ante Tomić, Miracle à la combe aux aspics, ressemble plus à un road trip et nous offre une série de péripéties bien enlevées. Le ton est assez mordant. Ainsi, le vieil aspic, coléreux et revêche, n'avait de sa vie dit un mot aimable, caressé ou étreint quelconque. Si quelqu'un avait essayé de l'embrasser, il l'aurait certainement tué sur place. Le vieil aspic, c'est Yozo, le patriarche asocial, violent, qui vit hors des lois avec ses quatre fils, dans ce lieu isolé appelé la Combe aux Aspics. La mère, qui n'a jamais eu droit à la parole et détestait son mari, est décédée l'an passé. Les fils et leur père doivent donc gérer le quotidien. Et question cuisine, par exemple, c'est assez moyen, dans le style polenta tous les jours. Et pour la lessive, dont se charge le plus jeune, ce n'est pas terrible non plus. Je cite. Sans plainte aucune, tous portaient des sous-vêtements rosâtres, assez peu masculins. Domagoï ignorant qu'il fallait séparer le linge blanc et celui de couleur. Et ça démarre assez fort avec la venue d'employés de l'intercommunale d'électricité qui s'aventurent à la combe pour faire régler des factures d'électricité jamais payées depuis de nombreuses années. Je vous laisse découvrir la rencontre et tout ce qui va s'en suivre. Et en parallèle, l'aîné, Crésimir, va se mettre en quête d'une femme, d'ailleurs sur les conseils du curé. Ben oui, bien sûr, il faut une femme pour s'occuper de la maison. Crésimir va se trouver embarqué dans une folle épopée, mais peu aguerri en matière sentimentale. Son éducation, ou plutôt son manque d'éducation, lui avait dans le passé joué un mauvais tour. Je cite, « Sa connaissance des femmes était plutôt limitée. Il les regardait de loin et avec prudence, ne sachant comment les aborder. » Et d'ailleurs, quand il avait 13 ans, il avait été attiré par une fille de sa classe sans oser quoi que ce soit. Et le jour où elle se retourne et lui sourit, il la gifle, croyant qu'elle se moquait de lui. Sa quête va démarrer par une farce grâce à la serveuse d'un bar, Louvorka. De nombreuses péripéties, entourloupes et retournements de situation vont pimenter ce récit. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Et puis, il y a aussi de temps en temps quelques allusions à la guerre. L'auteur joue vraiment de l'ironie et du second degré. Je vous lis. En 9 mois de combat, leur unité n'avait tiré aucune balle ni roquette sur les positions serbes. De leur côté, les Serbes étaient tout aussi pacifiques. Sans radio, ils n'auraient pas eu connaissance les uns des autres. Et ça continue comme ça, et plus loin, il va s'organiser une partie d'échecs entre un Serbe et un Croate par talkie-walkie interposé. Et le Croate va gagner. Et donc on peut lire. 5 minutes plus tard, les forces serbes se lançaient dans un féroce pilonnage au mortier qui dura 72 heures. « Ils sont comme ça, les Serbes, » soupira le sergent Mills. « Ils ne savent pas perdre. » Eh oui, on n'efface pas comme ça 4 années de guerre. En fait, tout est un peu impressionniste et sous-entendu. Autre petit exemple, visite dans une parfumerie. « Boss, c'est un parfum pour les chefs ?» Il se retourna vers les vendeuses. « Vous n'auriez pas un parfum pour les maçons ou les menuisiers, par exemple ?» Elles ne surent pas quoi répondre. Toutes les situations sont limites, mais un événement parvient toujours à déjouer le destin. J'ai vraiment passé un bon moment avec ce livre. Voici donc 4 romans qui m'ont détendu un peu les zygomatiques. Pour moi, ce sont quand même des romans à prendre au compte-gouttes, dans le sens où il faut se méfier des répétitions. Vous savez, un peu comme lorsqu'on visite une exposition de peinture, où l'on admire un tableau, et à la fin, quand on a fini le tour de l'expo, on a l'impression d'avoir vu le même tableau. À petite dose, ces romans sont une bonne récréation. Et puis, bien sûr, l'humour est vraiment une affaire très personnelle et aussi de circonstances. Ce qui me fera rire un jour aura peut-être moins de piquant dans quelques mois. Et puis, bien sûr, il y a toutes sortes d'humour. Ici, on est vraiment dans le registre de l'humour noir. Voici ce que dit Boris Cyrulnik à ce propos. Quand on est blessé, on ne rigole pas, on serre les dents. C'est tout. Mais quand on ne veut pas faire une carrière de victime, quand on veut malgré tout reprendre sa place dans la société, l'humour nous offre une stratégie relationnelle pour faire sourire, séduire le monde mental de ceux que l'on veut côtoyer à égalité. Autre citation de Pascal Couchepin, homme politique suisse. Les régimes totalitaires ne sont pas comme les autres. Parce que l'humour n'y est pas toléré à l'égard du pouvoir. et ils ne supportent pas l'humour parce qu'ils ne reconnaissent pas la réalité. Ils bâtissent par la propagande et la coercition un monde artificiel. L'humour, parce qu'il crève le décor, fait apparaître la réalité et détruit le masque du pouvoir. Ces deux extraits viennent de la revue Science Psy de décembre 2017. Et effectivement, on peut dire beaucoup de choses par l'humour. Donc je vous redis ces quatre romans. Demain c'est loin et Casso de Jackie Schwartzman. Qu'est-ce qu'un homme sans moustache et Miracle à la combe aux aspics de Ante Tomic. Les deux premiers, je les ai trouvés à la médiathèque. Les deux autres, je les ai achetés dans notre chouette librairie de Florac. Et pour finir, je citerai Volinsky. Le mour est le plus court chemin d'un homme à un autre. Oui, enfin, les femmes aussi peut-être, non? Je vous souhaite plein de bonnes, plaisantes lectures et à bientôt.
Tu as besoin d'un joli moment de détente?
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches? Tu hésites? Tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes.
Sur Radio Barthes 107 FM.